Direct en jeu, la radio insolite. Après avoir parlé de Cannes ce matin, maintenant on parle d'Avignon. On pourrait se dire qu'on ne peut pas vivre en dehors du mois de mai ou du mois de juillet. Non, mais par contre, on a le bonheur de retrouver certaines personnes qui ont une vie en dehors des festivals. C'est important, nous aussi, on a une vie en dehors des festivals. Et là, le bonheur, j'ai encore dans ma tête les images et la voix merveilleuse de Joshua. Bonjour Joshua.
Bonjour.
Alors, il m'a fait rêver lors du Festival d'Avignon 2022 parce que. Et alors, je vais faire un peu d'humour parce que dans ta biographie, quand on regarde, ton premier album avait un titre assez original. Est-ce que tu te rappelles du titre ?
Qui es-tu ?
Bon, donc la question que je vais te poser, elle est simple, c'est qui es-tu ?
On se pose toujours la question de savoir qui on est, en fait.
Ah ben bah, ça, alors là, jusqu'à la fin de sa vie, je pense.
C'est ça.
Alors, qui es-tu, justement ?
Je suis un artiste, un auteur-compositeur-interprète, qui écrit des chansons, avant tout, et qui s'est laissé tenter par le théâtre, l'écriture aussi théâtrale, puisque j'écris des pièces de théâtre, par la poésie, par voilà, l'aspect dramaturgique, et scénographie.
Mais il y a un truc que je comprends pas là. Je veux dire, tu as fait des études, tu es docteur en lettres, c'est bien ça?
Alors, je suis aussi docteur en lettres, oui.
Mais non, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu.
D'où ça? Moi, je trouve que on peut être un artiste éclectique. J'aime bien les anglo-saxons et les américains, parce qu'ils ont cette approche de liberté, alors qu'en France, on doit mettre des gens dans des cases. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que voilà, moi, j'aime l'enseignement, j'aime la littérature, la musicologie, j'ai fait des grandes études dans ces deux domaines. Et en parallèle, je fais de la scène, je me produis sur scène, je fais des albums, j'écris des pièces de théâtre. Donc, je suis vraiment un homme complet et comblé.
Ah, c'est joliment dit, ça.
C'est important de faire ce qu'on aime et de ne pas être frustré.
Ouais, c'est bien. Surtout que, bon, t'as quand même un parcours qui est assez riche, hein, puisque tu t'es baladé un tout petit peu. T'as même reçu un prix littéraire. T'as eu une thèse, si je dis pas de bêtises, sur George Sand et la musique. On s'attend pas à trouver ce type de choses. Et puis après, c'est pas que tu as dérapé, mais tu t'es dirigé tout droit vers la musique et puis surtout vers un talent vocal assez conséquent. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais une voix qui correspondait à quelqu'un d'un peu connu ?
En fait, moi, jamais, mais c'est les autres qui me disaient tout le temps « t'as la voix de Michel Berger ». Au début, ça m'agaçait parce que on aime avoir sa propre voix.
Oui.
Et puis, je me suis dit « mais c'est pas étonnant parce que j'ai été bercée par ses chansons.
Mm-hmm.
Par les chansons de Michel, par les chansons de France Gall, Véronique Sanson, Barbara ». Puisque ma mère adorait France Gall et mon père adorait Véronique Sanson. Et donc, j'ai tout peu, très jeune finalement, vers l'âge de 25 ans, 20 ans, j'ai su que j'avais cette voix un petit peu là, très proche du Michel. Et puis, j'avais pas fait attention à ça. Et puis, c'est après, il y a 3 ans, on m'a dit « mais tu devrais faire un hommage à Michel Berger parce que c'est légitime, parce que toi vraiment tu es pianiste aussi ». Et tu adores ces chansons.
Est-ce que c'est pas complexe, compliqué, est-ce qu'on hésite à s'attaquer à un monument de la chanson française comme Michel Berger?
C'est toujours très compliqué, je crois, de rendre hommage à un artiste, que ce soit Michel Berger ou un autre d'ailleurs, mm-hmm. Mais c'est vrai que Michel Berger, il a quand même ce côté un peu plus populaire que certains artistes.
Mm-hmm.
Je prends le cas de Barbara. Pour moi, c'était un Barbara, je la mets au-dessus de tout le monde parce que il y a vraiment des textes merveilleux. Enfin, c'est un être à part, Barbara, dans tout. Mm-hmm. Je ne sais pas comment expliquer, mais Michel Berger avait quand même ce côté faiseur de tubes, quand même, tu vois.
Mm-hmm.
Il était assez bon pour les autres parce que finalement, pour lui, il a eu le succès un peu plus tard. finalement. Il a connu le succès dans les années 80. Après, il a groupé des pianistes, tout ça. Mais avant, c'était un peu difficile pour lui, parce qu'il y a des gens qui commençaient à se dire que c'était compliqué pour sa carrière, pour sa carrière de chanteur, finalement. Et alors qu'on savait qu'il écrivait des tubes pour France Gall, pour voilà. Mais pour lui, ça a décollé un peu plus tard.
Oui, parce que sur le
Donc,
principe, au
oui.
départ, il ne chantait pas, lui. Il écrivait pour les
Alors,
autres.
déjà, bon, il chantait un petit peu quand même, si, mais il avait pris des pseudos. Il chantait un petit peu, mais c'est vrai qu'il a surtout écrit pour les autres, puisqu'il était aussi, il a été producteur très jeune. Hein. Il était directeur chez Marcoury. Il a été donc très très vite impliqué dans la production de chansons, d'albums, avant 18 ans. Hein. Donc c'était vraiment un chef d'entreprise aussi. Et puis il a écrit de très belles chansons pour Bourvil, et puis ensuite évidemment pour France Gall. Là, il était déjà très connu, mais connu en tant qu'auteur-compositeur. Et lui, ça marchait moins bien sur scène, parce que c'était quand il était au piano, c'était un peu plus calme, un peu plus, tu vois, romantique. Bon, voilà, il avait moins de présence, je crois, au début que France Gall, par exemple, qui, elle, était vraiment, qui avait cette pêche tout de suite scénique, qui touchait les gens, quoi. Ils avaient envie de Il faisait des tubes dynamiques, tu vois. Alors que pour lui, c'était un peu plus romantique, plus mélancolique.
D'accord. La manière que tu as de présenter le spectacle, ce n'est pas un spectacle, c'est une rêverie musicale, ce qui est assez original comme démarche.
C'est un rêve d'enfant qui est le mien.
Ah, carrément.
Que j'ai voulu prolonger avec le public, qu'il ait connu Michel Berger ou pas, finalement, parce que je trouve que ce qui est formidable dans ses chansons, c'est que les chansons de Michel, elles sont intemporelles. Voilà, on peut. Elles touchent toutes les générations, tous les gens. Et je suis partie de mon rêve d'enfant. D'un couple mythique, France Gall, Michel Berger, que je trouvais formidable, parce que j'avais les lunettes d'un enfant, la vision d'un enfant. Moi, mes parents divorçaient très jeune, et donc je rêvais d'un couple comme ça idéal, et c'était Michel et France. Et pour moi, donc, je ne savais pas du tout, si tu veux, après on a appris qu'ils n'étaient plus trop ensemble, qu'ils avaient, bon. Comme tout un couple, hein, qu'à la fin de leur vie, c'était finalement un couple qui a souffert, mais ça parce qu'il y avait la maladie de Pauline, de leur fille. Puis, bon, Michel voulait quitter France, apparemment. Mais ça, moi, bon, moi, j'en parle pas dans le spectacle parce que ça ne me regarde pas, et ça, c'est la vie privée. Moi, je reste, si tu veux, dans ce rêve d'enfant, dans cette rêverie musicale qui a bercé mon enfance, qui m'a donné envie de faire ce métier d'auteur-compositeur-interprète. Et qui, je l'espère, touchera les gens, puisqu'il est, c'est un spectacle, c'est un récit musical sensible, poétique, et quand même plein d'espoir, puisqu'il a pour objectif d'apporter le bonheur aux spectateurs.
Est-ce que c'est toujours, vu le nombre de chansons qui ont été réalisées par Michel Berger, est-ce que tu as toujours la même base de spectacle ou est-ce que tu changes parfois certains titres?
Tu parles des chansons, oui.
Oui, c'est ça.
Alors, là, pour Avignon 2022, j'avais fait tout le temps les mêmes chansons. Pour 2023, d'ailleurs, je reprends un spectacle lundi à Paris, au Théâtre du Gouvernail. Là, j'ai changé, j'ai ajouté deux nouvelles chansons. Ben, j'ai remplacé deux chansons, deux
D'accord.
anciennes par deux nouvelles, voilà.
Voilà, tu...
Mais je peux pas non plus changer tout le temps parce que c'est quand même comme une rêverie. C'est un, voilà, je sois aussi transporté, il faut que je m'habitue aussi au changement. Donc c'est pas comme un concert où toi je peux changer.
tout à fait.
Voilà. Mais voilà, donc j'ai rajouté deux chansons, voilà.
D'accord. Ton programme à venir est très, très chargé parce que là, au mois de novembre, tu es tous les lundis hein, donc au Théâtre du Gouvernail. Mois de décembre, où es-tu passé? J'ai pas encore l'info. Mois de janvier, tu reprends. Mois de février, tu reprends aussi. Tu as une tournée de prévue ou tu vas rester toujours à Paris?
Non, non, on a des dates aussi à Aix-en-Provence, certainement, et puis aussi en Normandie et Bretagne qui vont arriver. Et puis ça va suivre. Mais non, non, ben, en décembre, tu sais, j'écris aussi, là je suis sur une pièce, sur un projet personnel, qu'est-ce que j'ai écrit. Donc on fait aussi des répétitions pour cette pièce et des lectures. Donc
D'accord.
je me suis laissé le mois de décembre pour la pièce, parce que c'est difficile de tout enchaîner. Mais sinon, non, non, Michel Berger, je pense, cette WG sera programmée tout au long de l'année, tout 2023, je pense.
D'accord. Et alors, comme je mets la chronique en route vers le HOF change tous les ans, puisque maintenant c'est en route vers le HOF Avignon 2023. Toi qui as déjà fait Avignon, comment tu conçois l'année prochaine?
Alors, tu veux dire comment je le conçois au niveau.
Comment tu le vois? Est-ce que ça va être la même chose? Tu vas aller tracter, tu vas te balader, tu vas faire le
Ça,
spectacle?
il faut tracter de toute façon, ça c'est sûr. On n'a pas le choix. Je pense que je vais prévoir à des moments de chanter dans Avignon, tu vois,
Oh mon Dieu.
avec un petit magnéto ou
Petite
comment
enceinte.
dire, une petite enceinte portative. Voilà, peut-être avec un micro pour pouvoir donner envie au public de venir, parce que ça, c'était pas évident. Mais bon, en même temps, comme c'est la deuxième année, les gens me connaissent un peu quand même. Le spectacle a plutôt bien marché, hein, donc j'espère que ça va continuer. Mais il faut rien lâcher parce qu'il y a tellement. Avignon, c'est beaucoup de spectacles, hein.
Eh oui, cette année c'était 1570 spectacles en effet.
Voilà, c'est ça. Donc, bon, moi, j'ai toujours. J'ai réussi à faire tous les jours des spectacles, j'ai jamais annulé, j'ai du monde, j'ai une belle revue de presse grâce à mon attaché de presse Dominique Claude, que je salue d'ailleurs. C'est un travail remarquable et c'est vrai que. Donc la presse était au rendez-vous, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu développer bien la connaissance du spectacle auprès du public qui ne connaît pas. Donc peut-être voilà des interventions comme ça, des interventions musicales, et puis flyer, faire des radios aussi locales. Ah, mais je suis plutôt content de eh bien des spectateurs, enfin de leur des retombées.
Ah, mais je dois dire que là-dessus, on passe un moment magique hein, quand on vient te voir. Je suis désolé, je suis venu. C'est pas que j'ai pris ça en pleine figure, mais franchement, j'ai été très très surpris. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu, ce que tu fais. Puis tu as une très jolie voix, je crois que je te l'avais dit sans hésiter et tout. Ok, donc on est d'accord que c'est novembre, janvier et février. Rendez-vous au Théâtre du Gouvernail à Paris. C'est là où on peut
Oui,
te voir. Je suppose qu'on. Oui, vas-y.
tous les lundis à 21h, et vous avez toutes les informations sur Billets réduits ou sur
Voilà.
le site du gouvernail.
D'accord, ben voilà, c'est tout. Ben, c'était exactement ce que j'allais te poser comme question. Bon, ben écoute, moi je remercie aussi Dominique Claude de nous avoir remis en relation. Et puis je te dis à très très vite.
Mais merci, à bientôt.